Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! C'est un dur métier intimement lié à l'histoire du Québec. Une activité à risque qui consistait à guider des billots de bois sur les rivières. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, au temps de la Drave, Pitoun, Cageux et Tournebille.
J'ai beaucoup observé pour apprendre à être draveur. Et puis, une personne qui veut, il peut, monsieur, par le fait que j'ai appris, à l'âge de 20 ans, je pouvais facilement traverser une rivière sur un seul billot avec ma gaffe, sans tomber à l'eau, sans mouiller.
Témoignage d'un draveur d'expérience, Léo Normandin, c'était en juillet 1975 à notre télé. Comme des milliers d'autres, au printemps, les draveurs montaient dans le bois, armés de perches, de gaffes et de tournebilles. Debout sur les pitounes ou dans l'eau jusqu'à la ceinture, ils font franchir aux billots de bois des centaines de kilomètres de rivières, de chutes et de lacs. Le métier a façonné le Québec, il a aussi inspiré bon nombre d'artistes, admiratifs devant les prouesses des draveurs.
Ça commence au fond du lac brûlé, alentour du 8 ou 10 de mai. La mort à longue manche, vêtue d'écume blanche, fait rouler le billot pour que tombe Silvio. Elle, lui, l'on se déperle des morceaux d'arc-en-ciel dont lui crever les yeux et le briser en deux. Silvio danse.
J'ai beaucoup appris de ces gens-là. Dans ce sens que ce sont des gens qui ont canoté les rivières, qui les ont marchées, et c'est le cas de dire parce qu'ils marchaient sur les billots à ce moment-là, qui ont partagé, donc qui ont connu leur pays, qui ont marché leur pays, et qui ont vu leur pays et qui l'ont nommé. Alors j'ai pu à ce moment-là retenir tout un vocabulaire de l'eau, par exemple. Qui
ressemble à quoi?
Qui ressemble à ce qu'on ne connaît pas, et pourtant qui est chez nous. Dans une rivière, on connaît des accidents d'une rivière par les chutes, les rapides, les remous, mais pour eux, il y avait plus que ça. Il y avait des rapidons, qui sont de petits rapides, des chutons, petites chutes, des lacons, petits lacs, des algues mortes. Les algues, est l'ancien mot français pour eau, alors c'était des eaux mortes.
Dans sa tête! Il y a des billots qui flottent, qui les changeraient pour un air de guitare. Me lançant ses noyés.
Sur la musique de Félix Leclerc, bien sûr, Normand Lafleur racontant ses souvenirs sur la Saint-Maurice alors qu'il était draveur dans les années 50. C'était à l'émission Réseau Soleil à notre télé, juillet 1975. Alors, pour nous parler de la drave, très populaire d'ailleurs en Mauricie, mais également en Outaouais, dans la Naudière, entre autres, mon invité, Raymonde Beaudoin, l'a publié récemment un ouvrage qui a pour titre « Il était une fois les draveurs », c'est publié chez Septentrion. Bonjour, merci d'être là.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie.
Vous avez vous-même connu cet univers, hein? Vous avez, avec vos parents, il y a très longtemps bien sûr, mais vécu dans un camp de bûcherons pendant un an. Quels souvenirs vous en gardez spontanément quand vous repensez à ça?
Ce que je me souviens rapidement, c'est nos deux tabourets pour dîner. Notre lit qui était en bois. J'imagine qu'on a dû avoir froid parce que ma sœur et moi, mon père nous avait installé un madrier entre les deux pour que nous ayons chacune nos couvertures de laine.
Ah oui.
Fait que j'imagine qu'il devait avoir des tensions avant.
Oui.
Je me souviens que c'était mon travail, ma responsabilité le soir d'appeler les hommes avec un triangle. Puis mm-hmm. J'avais une barre de métal.
Ah oui.
Je montais sur un tabouret, puis tic-cling, tic-cling, tic-cling. Ça voulait dire que la table, le repas était prêt vers les 5 heures.
Ah oui, et ça, j'imagine qu'on se précipitait pour aller manger, hein, après une dure journée de labeur comme ça. On dit bûcheron parce que souvent, on mélange bûcheron et draveur. C'est quoi la différence entre les deux?
Les bûcherons sont ceux qui abattaient les arbres. On parle de 30-35 000 hommes dans les années 40. Ils étaient nombreux, on en manquait, ils travaillaient pour les papetières. Il y avait des bûcherons aussi avant ça partout au Québec, là. Puis on parle des régions que vous avez nommées tantôt, mais de la Gaspésie, de la Côte-Nord, il y avait...
Oh oui.
Puis un peu tout le monde se pensait bûcheron au Québec à cause du bois de chauffage qu'on avait besoin. Bon. Les draveurs sont ceux qui acheminaient les arbres qui flottaient librement sur la rivière. Il faut faire la différence avec les cageux de la Gatineau qui, eux, transportaient des gros chênes et des pins. Le pin flotte pas longtemps, il flotte pas à l'eau chaude, il y avait beaucoup de pertes, puis les chênes, ça flotte pas du tout, là. C'est direct dans le fond de l'eau. Donc, on les mettait sur des radeaux jusqu'à Québec. Ça, c'est une chose. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était les draveurs. Eux, ils acheminaient l'eau, c'est-à-dire les arbres, soit les bio, ensuite, dans les années 40, fin des années 30, des pitounes, jusqu'aux papetières. Mm-hmm. Et c'est de ceux-là qui est question, mais dans un camp de bûcherons de 50 hommes, il y avait peut-être 4-5 gars qui donnaient leur nom pour la drave, pas plus, là. Les bûcherons n'étaient pas tous draveurs, mais les draveurs étaient souvent des bûcherons.
Ah oui. Donc, une différence importante. Vous avez évoqué les années 40, 50, 30. Ça remonte à quand, la drave au Québec?
Qu'il y a eu beaucoup de draves, oui, que ça s'est étendu. Moi, je vous dirais que c'est avec l'apparition des papetières qu'il y en a eu le plus. Il y en a eu avant pour les moulins assis, mais c'était une drave qui était sur une courte distance et souvent juste possible à cause de la crue des eaux. Mm-hmm. Donc, c'est une drave qui pouvait durer 2-3 semaines, comme à Sainte-Émilie de l'Énergie. Je prends ça comme exemple.
Oui, parce dans la Naudière.
Oui, dans la Naudière. Pour moi, c'était facile d'aller vérifier. Il y avait 5 moulins assis. Donc, ces gens-là apportaient le bois qui flottait, pas le bois franc, c'est sûr, directement au moulin. Mais c'est une drave de 2-3 semaines. Tandis que la drave dont il est question, quand on parle du Saint-Maurice, de la Matawin, c'est une drave qui pouvait durer 4-5 mois. Bien, ça, c'est arrivé avec les papetières. Puis je fais la distinction entre le début du siècle, 1910 jusqu'à 1930, là, parce qu'il y a eu, quand il y a eu la crise, ça a tout arrêté. Et ça a repris vers la fin des années 30, jusqu'en 1980, mais il y en avait partout.
Mmh. Et qui organisait? Est-ce que c'était justement les papetières qui se chargeaient d'engager les hommes et puis monter les camps, ces choses-là?
Oui, les papetières avaient donné l'organisation puis l'administration des chantiers, des camps de bûcherons à des entrepreneurs locaux, à ce qu'on appelait des jobbers. Tandis que pour la drave, c'est la compagnie qui se chargeait elle-même de faire à l'automne ce qu'ils appelaient les approuvements, les travaux préparatoires, de libérer les rives, mm-hmm. de libérer aussi la rivière, s'assurer qu'il n'y a pas d'embâcle qui va se former à cause d'une roche ou d'un arbre qui est tombé. Et c'est eux qui engageaient les draveurs aussi, qui étaient difficiles à trouver. C'est eux qui les payaient. C'est eux qui voyaient à l'organisation de la drave.
Oui, parce que ça demande une grosse organisation. Hein. C'est pas simplement balancer comme ça des billots de bois dans une rivière. Puis d'autant plus, vous dites, bon, ils étaient difficiles à trouver parce que le métier comme tel, il est extrêmement difficile. Un rappel ici, témoignage de Léo Normandin en 1975 à notre télé.
En 1916, messieurs, on montait à 15, 20, 30 000 à pied avec notre bagage sur le dos. Et puis, franchement, c'est quasiment gênant de décrire la vie qu'on a passée de 1916 à aller à 1964. Là, on partait le printemps de bonne heure. Il y avait encore la neige, il fallait traverser les lacs à pied. Mais seulement, franchement, là, c'était pas bien drôle. Comprenez? Un homme qui passe 45 années de sa vie sur la drave, il ne peut pas oublier. Il y a des beaux jours là-dedans aussi.
Est-ce que vous conseilleriez à vos fils, par exemple, d'aller comme draveur?
Non, si pardon monsieur. Non, monsieur. Je ne conseillerais pas ni à mes fils, ni à un étranger non plus de faire l'ouvrage que j'ai fait par le passé.
Est-ce que vous regrettez de l'avoir fait?
Je ne regrette pas, monsieur, c'est fait, ça ne me donnerait rien. Mais seulement que ce n'était pas humain. Pas directement humain.
On sent dans ce témoignage que ce n'était pas toujours une partie de plaisir. On imagine bien comme ça dans le bois en 1916. Pourquoi les hommes acceptent ce travail-là? Est-ce que c'est faute de mieux?
Souvent, c'est les gens qui vivent dans les villages. Et il n'y avait pas d'industrialisation, ça ne s'était pas rendu là. Et là, les générations précédentes s'en allaient aux États-Unis travailler à Lowell, au Massachusetts, dans les usines. Et plusieurs ne sont pas revenus. Mm-hmm. Donc, on avait des grosses familles, comme à Sainte-Émilie, Saint-Michel, Saint-Côme, mais c'est la même chose dans Portneuf ou en Abitibi. Et puis, la terre ne pouvait pas nourrir tout ce monde-là. Et on avait une agriculture d'autosuffisance. Donc, les gens n'avaient pas d'argent en cash. D'aller travailler au chantier comme bûcheron, ça leur donnait du cash. Mm-hmm. Mais sur la drave, ça en faisait un petit peu plus aussi.
Ouais.
Maintenant, il y a certaines familles, comme les Thériault de Saint-Côme, où la drave était vraiment une affaire de famille. Puis M. Thériault se targuait de dire « J'ai jamais perdu un homme ». Ah oui. Et lui, il amenait ses enfants sur la drave, mais avec des mesures de prudence et une discipline de fer. C'était, d'après moi, le secret de vivre longtemps sur la drave.
Mmh. Oui, ben, effectivement, il y avait bon, une fierté aussi, puis une solidarité aussi. Ça, on l'entend souvent hein, entre hommes. Il faut s'assurer, parce que ça peut être extrêmement dangereux. Tout le monde veille sur les autres, là.
Hein? Ben, je vous donne l'exemple de mon père. À 20 ans, à 19 ans, il travaille sur la drave. Il veut devenir un homme, puis il est tout seul. Il n'a pas de frère, puis c'est pas son père qui serait allé travailler dans la forêt. Donc, il est maladroit les premiers jours. Puis là, il veut montrer qu'il est bon. Mmh. Avec sa gaffe, il pousse les pitounes qui sont sur le bord de l'eau, puis il y a de la glace encore, là, on est au début. Puis il pensait que c'était de la glace, puis c'était de la mousse, c'était de l'écume due à l'eau.
Ah oui.
Il s'est ramassé à l'eau. Mais il y a un vieux monsieur, Louis Bazinet, qui n'est pas dans sa parenté, mais qui l'avait à l'œil, là. Il a tout de suite tendu sa pôle puis dit « Sors, le jeune! » Il l'a ressorti aussi vite. Il y avait une surveillance. Puis même M. Lépine, qui était pour moi, je pense, un très bon draveur, Salomon, il dit qu'il fallait écouter les anciens. Parce que les anciens, ils entendaient des choses que les jeunes n'entendaient pas.
Ah ben oui, ils apprenaient à lire la rivière, le lac, puis l'expérience. Il n'y a rien qui remplace l'expérience, c'est sûr. Ça ressemble à quoi, la vie de draveur? Parce que j'en reviens au témoignage, le monsieur qui dit... Ben, c'est extrêmement difficile. On montait dans le bois, on marchait 5-10 000 dans le bois, on couchait dans des camps, dans des tentes. La vie de draveur, ça ressemble à quoi?
Au niveau des conditions, c'est épouvantable. Maintenant, ça dépend. Quand on parle de, disons, la Matawin, c'est une rivière de 200 km. Il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de village autour. Les gens dormaient dans des tentes, mangeaient ce qu'ils pouvaient. C'était le cook qui apportait le poêle de cookerie, comme on dit, puis la poche de bine, puis l'or salé dans un boat, une barge exprès pour la nourriture. C'était épouvantable. Par contre, si on est en Haute-Mauricie, d'un lac à l'autre, il y avait des barrages. Autant à chaque lac, il y avait un barrage. Et là, on ouvrait un barrage, on descendait à l'autre lac, on redescendait. Et s'il y avait des camps, des chantiers qui avaient été abandonnés pendant l'hiver, les draveurs pouvaient dormir dans ces camps-là.
Ah oui.
Donc, ils mangeaient beaucoup mieux.
Mmh. Ah oui.
Et si on regarde en Mauricie, bien là, c'était autre chose. Il y avait même des camps bus, puis il y avait des camps prévus parce que la rivière était toujours dravée, celle-là. Là. Donc, les conditions variaient, puis le travail variait d'une place à l'autre.
Oui. Bien, ça varie évidemment selon les époques aussi. On imagine que la drave de 1964 n'est pas celle de 1916. Hein? Mais vous avez évoqué la nourriture, parce que ça, c'est extrêmement important. Il faut nourrir les hommes. Ça aide aussi à garder le moral, hein? On imagine. À ce sujet, on va écouter Michel Tisser dans un camp de draveurs en Mauricie. C'était le 1er juin 1961.
Est-ce qu'ils ont bon appétit, les bûcherons,
oui,
les draveurs?
Oui.
Tout ça?
Ah oui, ils mangent pas mal. Puis ça prend une bonne nourriture pour les soutenir. Hein?
Mm-hmm. Qu'est-ce que
Parce
vous leur
donnez? Parce qu'au travail qu'ils font, ça prend une bonne nourriture, vous savez.
Qu'est-ce que vous leur donnez? Ça a l'air. Ben, ça sent bon aussi.
On leur donne, voyez-vous, de la pâtisserie assez, de la viande, et puis une nourriture assez solide. Vous savez, parce qu'il y a assez de calories pour donner du travail au ventre.
Mm-hmm. Les fèves au lard, ça c'est.
Oui, fèves au lard le matin, un peu de midi, des fois.
Mm-hmm. Et puis Paris. Beaucoup de légumes verts aussi.
Oui,
hein?
Beaucoup de légumes aussi.
Mm-hmm.
Ouais.
Et puis des bonnes soupes.
Oui, des soupes.
Et puis. Maintenant, est-ce qu'il paraît que même leur petit déjeuner le matin, leur premier repas est assez plantureux, hein?
Oui, on donne des œufs, vous savez, des fèves au lard, des toasts, de temps en temps, de la viande. Et puis, on donne des pancakes un peu, vous savez, puis du gruau. Bon, on donne à peu près. C'est que on pourrait peut-être servir encore mieux, mais il me semble que la nourriture est assez suffisante pour les travailleurs.
Bon, en ce cas-ci, on est bien nourri, là, mais il faut dire qu'on est quand même en 1961. Hein? Donc,
sur le Saint-Maurice.
Et sur le Saint-Maurice. Vous l'avez dit, ça fait toute la différence, hein, entre le Saint-Maurice ou, par exemple, la Matawin, qui est dans la région de Lanaudière. Il y a tout un folklore, hein, une imagerie populaire qui s'est développée autour du draveur. Comment vous l'expliquez, ça? Qu'est-ce qui fait que ce métier extrêmement rude a inspiré tant de chansonniers et tant de poètes?
Ça me questionne énormément.
Oui.
C'est certain qu'on a la chasse-galerie, qui est absolument un conte d'Honoré Beaugrand magnifique, et on avait peu de choses sur les raffemans, mais sur les draveurs, j'entends des choses. Le monsieur qui dit qu'il pouvait traverser la rivière sur un billot, Mais ça, on parle d'exception. Dans Saint-Côme, il y avait un monsieur capable de descendre une rivière sur un bio, Ambroise Lepage, puis il faisait quand la drave était finie. Les draveurs, ils se promenaient pas sur les bio, là. C'était kamikaze.
Oui. Il allait le moins... Donc, ça, c'est du folklore, là. En tout cas, ça relève peut-être de la compétition, là.
Ouais. Il n'y a jamais de draveurs qui ont travaillé en équilibre, c'est bio, là.
Oui.
On imagine, c'est des milliers de bio qui arrivent en même temps sur une rivière qui est déchaînée à cause de la crue des eaux. Ils tenaient à vivre plus que ça. Mmh. Et même sur les embarques, ils n'allaient pas toujours sur les embarques. Un, on essayait avec le bateau, le boat, qui appelait la grosse barge, ou on essayait à partir du côté de la rivière. Sinon, on allait dessus, mais avec d'infimes précautions. Monsieur Salomon disait... Des fois, il fallait aller sur l'embarque pour la défaire. On cherchait la clé, là. Puis on trouvait la clé. La clé, c'est 2-3 bio qui pouvaient retenir l'embarque. Puis là, il dit, fallait faire attention, il fallait connaître ça. On l'entendait souffler. Mmh. Mais quelqu'un de pas habitué, il connaissait pas le son à peine perceptible là, de la jambe qui va céder, là.
Oui.
Dès qu'il l'entendait souffler, il fallait que ça en aille au bord.
Oui, bien, c'est périlleux. Hein?
Mais
les
gens ne savaient pas tout ça, donc ils ont imaginé des Joe Montferrand. Et j'ai même vu, je pense que c'était à Ottawa, où ils disent que les draveurs, ben, les roughmen que je connais moins, allaient veiller le soir, impossible. Ils travaillaient 12 heures par jour, il y avait des repas à peine acceptables, 4 repas par jour. Des petits repas pas aussi...
On n'était pas dans le menu de tantôt, là.
Non, pis, ni dans les camps en Haute-Mauricie. Mm-hmm. Mais sur le bord de la rivière, là, on parle de manger pour survivre. Il n'allait pas veiller le soir, il dormait.
Oui. Puis il était loin, en plus. Hein? Puis ce qui était loin pour aller veiller, là.
Oui. Puis ce qui était difficile aussi, qui est loin du folklore, c'est que souvent, ils remettaient des vêtements trempés le lendemain matin.
On imagine bien, oui.
Puis ils sont déjà sortis d'une tente de toile avec de la neige. Ça arrivait qu'il pouvait neiger au mois de mai, là.
Non, on imagine bien. On imagine bien les conditions de vie, sans parler de la chaleur dans certains cas, les mouches, les moustiques, hein, que ce soit en Mauricie ou dans la Naudière. Mais c'est vrai que ça a inspiré bon nombre de chansonniers, de poètes. Hein, ça fait partie de l'imaginaire collectif au Québec. Un exemple ici, Raoul Roy, folkloriste et interprète, s'appelle « Les draveurs de la Gatineau, 1963 ».
Buvons mes camarades à la santé de Gouin. Trois ou quatre rasades et donnons-lui la main. Dravons la Gatineau, dravons-la jusqu'en bas. Et nos barges sur l'eau vont mieux qu'un Rabaska, vont mieux qu'un Rabaska.
J'ai commencé à l'âge de 15 ans. La première drave que j'ai faite, je l'ai faite à Wendigo. On partait pour trois mois et demi.
Et quand je vois ces anciens draveurs, je les vois dans l'image ou dans les peintures anciennes, je les vois courir sur les billots. Est-ce que c'était bien réel, ça?
C'est réel, certain. C'est réel. Moi-même, j'embarquais sur un billot. J'étais pas un champion, mais j'embarquais sur un billot, puis je travaillais là-dessus. Puis il y avait bien meilleur que moi.
Ah, il y avait d'autres champions.
Ah oui, il y avait bien meilleur que moi là-dessus. C'est un billot. Je passe la journée sur le billot.
La journée sur le billot. Bon, on imagine qu'il fallait peut-être en mettre un peu aussi pour le journaliste. Hein. Ça aussi, ça fait partie du folklore. Qu'est-ce qui a mis fin à la drave au Québec? Pourquoi ça s'est arrêté, ça?
Il y a eu plusieurs pressions des riverains, puis des groupes environnementaux dans les années 70-80. Donc, vers 1980, on commence à gagner. Les gens, ces groupes-là, commencent à gagner. Et je pense que c'est pas juste une question environnementale ou politique, c'est aussi une question économique. C'est qu'on a découvert de plus en plus comment faire du papier avec des procédés chimiques au lieu du bois de pulpe. On avait d'autres façons de faire du papier avec du bois juste en écorce, là, échiffé. Peut-être l'amélioration aussi du réseau routier.
Oui, sans doute, ben, ça fait partie de la modernisation, mais c'est vrai que, en tout cas, la question de la pollution déchirait la population dans certaines régions du Québec, notamment la Mauricie, parce que pendant longtemps, hein, on a nié ce problème-là. Deux points de vue opposés ici, on va les écouter. C'est un reportage à la Semaine verte, c'était en mai 1973, et question justement de la drave sur la Saint-Maurice.
Pour quelqu'un de Montréal ou d'une grande ville ou un professeur d'université ou les alarmistes qui voient dans le flottage quelque chose, un élément de pollution, il le voit d'une façon que je dirais plus théorique, parce que pour le Mauricien, C'est son gagne-pain, c'est sa vie. C'est la vie du tiers de la population qui est liée à ce flottage-là.
Il n'y a personne qui se plaint.
À date, moi, je peux dire qu'on n'est pas à la veille des troupes d'octobre pour ce qui regarde le flottage.
Est-ce que ça pollue?
Ça pollue, évidemment que ça pollue, parce que sur le Saint-Maurice, je pense qu'il y a un an ou deux ans, on a eu, à un moment donné, une mortalité massive de poissons. Hein? Vous savez que le bois recouvre toute la rivière. Ça empêche d'abord l'aération de se produire, parce que le contact entre la surface de l'eau et l'oxygène de l'atmosphère, c'est une aération qui permet aux poissons de vivre. Alors, si vous recouvrez la rivière complètement de bois, il n'y a plus d'aération. Deuxièmement, bien, il y a tous les dépôts de l'écorce. Hein? Les baies se frappent les unes sur les autres, puis il y a l'écorce qui dépose sur le lit de la rivière. Puis ça, bien, il y a des épaisseurs assez phénoménales d'écorce sur le lit de la rivière. Bien, ça recouvre évidemment les frayères, ça recouvre tous les insectes. Enfin, on se trouve à détruire un peu la vie qu'on a dans la rivière.
Reportage de la Semaine verte, c'était en 1973 à notre télé. Alors, dans le cas de la Saint-Maurice, qui est probablement la rivière la plus importante en termes de drave au Québec, hein, ça a été, je pense, la dernière. En tout cas, ça s'est arrêté complètement beaucoup plus tard, là, dans les années 90.
1995. Il y a eu des travaux pour la décontaminer, pour la nettoyer. Mais je pense que les dommages, je regarde entre autres pour les gens qui mangeaient ce poisson-là ou certaines nations autochtones qui devaient se nourrir à partir de la rivière, c'est une catastrophe sans mots.
Ben parce qu'il y avait, énormément. La quantité de bois qui flottait sur une rivière comme la Saint-Maurice, c'était absolument effarant, là. Et pendant plusieurs années. Est-ce qu'on évalue bien, au final, hein, l'importance qu'a eue cette activité-là, la drave au Québec? Qu'est-ce qui vous a incité à écrire ce livre-là? Est-ce que c'est dans le but, justement, de se rappeler de ce patrimoine-là, de cette activité économique, puis qui a fasciné aussi le paysage puis l'imaginaire québécois?
Je ne peux pas dire que la drave était essentielle au niveau économique autant que les camps de bûcherons, parce que les camps de bûcherons ont donné de l'espoir à tellement de personnes. Mais la drave aussi, les draveurs, puis j'ai rencontré tellement des beaux monsieur des draveurs de métier. Mais ce qui me donnait pour moi, en tout cas, mon but, oui, c'était qu'on reconnaisse leur travail, oui, qu'on reconnaisse qui ils sont, que ce n'était pas des fiers à bras, c'était des gens débrouillards, disciplinés, c'était des beaux messieurs que j'ai rencontrés. Puis même les bûcherons, souvent, ils étaient méconnus, on les méprisait. « Ah, ils ne sont pas allés à l'école. Si tu ne vas pas à l'école, tu vas devenir bûcheron. » Tu avais des gens qui étaient doués à l'école, d'autres qui l'étaient moins. Tu avais des bûcherons habiles, débrouillards, qui envoyaient l'argent à leur épouse, qui envoyaient l'argent à leurs parents. J'ai connu des gens un peu partout qui envoyaient des avances de fonds qui n'allaient pas dilapider. Puis les jeunes draveurs ou les jeunes bûcherons qui allaient prendre un coup en sortant, là, ben moi, je pense qu'ils étaient juste sains mentalement. Là.
Ben oui, oui. On aurait fait pareil. Après des mois dans le bois, en tout cas. Moi, je peux vous assurer.
Hein? Absolument.
Certainement, certainement. Après des mois de dur labeur comme ça. En tout cas, c'est fort intéressant. Et quand vous dites des beaux messieurs, ben moi, en écoutant les témoignages dans nos archives, oui, j'ai été très ému par ces témoignages-là. Les gens de la drave, ceux qui ont appris, qui ont développé un langage, on l'entendait un petit peu plus tôt, et qui ont appris comme ça un travail à la dure, extrêmement difficile, puis à se débrouiller, et qui ont contribué aussi à l'essor du Québec. Mon invité, je le rappelle, le Raymond de Beaudoin, a publié récemment un livre qui a pour titre Il était une fois, Les Draveurs, c'est publié chez Septentrion. Merci beaucoup de votre visite.
C'est moi qui vous remercie.
Ici Maxime Coutier, bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.